Une bonne nouvelle d'après Jean, lecture suivie de l'évangile de Saint Jean, dans une traduction transposition de Vincent-Paul Toccoli, salésien de Don Bosco.
Il est vrai, chers auditeurs, que l'événement merveilleusement décrit par Jean, qui devait être là, on sent le jeune Jean qui a tout observé, qui n'a rien oublié, enfin, les détails au moins, mais alors, de toute façon, c'est un super artiste, un écrivain hors pair, le coup du détail, du trait particulier. Cette scène est un véritable sketch, une scénette, un court-métrage, dirait-on, au Festival de Cannes, où, depuis le début de Béthanie sur Jourdain, en bas, c'est-à-dire près de la mer Morte, à Béthanie, près Jérusalem, il y a ici tout un déplacement, et nous savons que c'est dans le déplacement que les gens se transforment. Le but du pèlerinage, je dis pas importe peu, moi je n'aime pas Saint-Jacques de Compostelle, mais je préfère un rite inca, enfin peu importe, mais c'est le chemin qui fait tout le travail. Là, en ayant entendu ce qui s'est passé en bas, on lui a annoncé que Lazare était fatigué, Jésus attend encore 2 jours, et puis on dit qu'il est mort, et c'est quand il est mort, c'est incompréhensible, qu'il se met en marche pour aller à l'enterrement. Il aurait pu aller avant, se dit-on, etc. Mais pendant que tout cela se déroule, vous pouvez imaginer tout ce qui a dû se dire en chemin. Il faut monter à Jérusalem, ce qui fait une bonne dizaine de kilomètres, puis se rendre encore de l'autre côté, ce qui fait encore... faut descendre la vallée du Cédron, puis remonter sur Béthanie. Il y a bien encore 5 à 6 kilomètres à monter, à descendre. 15 kilomètres, il faut 3 heures, surtout que ça grimpe pour pouvoir y monter. Allez, supposons, pendant ces 3 heures, vous imaginez le nombre de commentaires par petits groupes, les apôtres à 2 ou 3, puis venant autour de Jésus pour essayer de glaner un renseignement. Quelqu'un a pu oser lui dire « on a peut-être pu venir avant, quand même, c'est ton ami » ou n'importe. Bref, tout ce qui a pu se passer. Cette scénette est une véritable mise en scène pour que la foi puisse déboucher. Et comme vous l'avez vu, chers auditeurs, ou plutôt entendu, cette scénette-là, de la résurrection de Lazare, est précédée par la scénette, qui en est une encore admirablement construite, une espèce de petite pièce de théâtre, de l'aveugle-né. Il y a des choses qu'on voit, des choses qu'on ne voit pas. Certains regardent sans voir. Certains voient avant même d'avoir regardé. C'est toute la, j'allais dire, le jeu que Merleau-Ponty, dans sa phénoménologie du regard, justement étudié. On peut regarder des heures sans voir quoi que ce soit. Et certains, sans regarder, peuvent immédiatement voir de quoi il s'agit. Que nous apporte la 7e semaine ? Écoutons Daniel.
Septième semaine. De nouveau, Pâques, la grande Pessa des Juifs approchait. Des caravanes montaient de tout le pays pour se purifier avant les festivités à Jérusalem. Les nouveaux arrivés cherchaient Jésus partout dans le sanctuaire. À votre avis, il viendra ou non à la fête ? Un bruit plus sinistre traversait les cours et les portiques, une prescription des chefs, des prêtres, des pharisiens. Tout homme sachant où Jésus se trouvait était mis en demeure de le dénoncer pour qu'on l'arrête. Jésus avait pris l'habitude de se retirer à Béthanie le soir, après avoir prêché dans le temple toute la journée jusqu'au coucher du soleil. Lazare et ses deux sœurs étaient tellement heureux de le voir et de l'écouter. Avoir Jésus chez soi, à domicile, le servir, s'occuper de lui, l'aimer, car il se laissait aimer Jésus. Il aimait qu'on l'aime. Il aimait être aimé. Ce n'est pas parce qu'il était Dieu qu'il n'en était pas moins homme. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie un soir. Lazare organisa vite un dîner en son honneur. On se hâta d'avertir quelques amis, et bientôt, sous la tonnelle encore sans grappe, où les feuilles nouvelles se tordaient sous les coups de la sève, les convives se pressèrent autour des tables qu'on avait sorties. Marthe servait. Lazare s'était installé près de Jésus. Marie avait disparu dans le mouvement. Personne ne l'avait remarqué grimper à l'étage. Quand elle réapparut, elle portait un gros flacon de parfum très rare, que chacun reconnut à sa forme. Jésus lui sourit. Marie avait le visage grave, ce qui surprit tout le monde, mais elle essaya de sourire à son tour, donnant à ses traits une expression de grande douleur. Elle s'avança alors et, comme quelques mois plus tôt chez Simon le pharisien, Marie versa le liquide sur les pieds de Jésus, les essuya de ses cheveux, et la maison fut remplie de ce parfum. Marie pleurait. Jésus lui prit la tête entre les mains. Ils se regardèrent. Le silence isolait leurs regards.
« Pourquoi n'avoir pas vendu ce parfum? On en aurait bien tiré 5 000 pièces à donner aux pauvres !»
C'était la voix légèrement nasillarde de Judas, une voix capable de casser toutes les atmosphères. D'ailleurs, chacun savait bien, on le connaissait, qu'il se fichait pas mal des pauvres. Seulement, il était chargé de la bourse, et à l'occasion, ne se gênait pas pour y puiser. Mais déjà la voix de Jésus rétablissait la situation.
« Laisse-la tranquille. Elle ne fait qu'anticiper sur moi les rites de l'ensevelissement. »
Marie pleurait. Lui seul avait compris. Jésus continua. « Des pauvres, vous n'en manquerez pas autour de vous. Moi, vous ne m'aurez pas pour toujours. » Les derniers mots coupèrent court à leurs réflexions supplémentaires. La soirée était terminée. Marie se retira, reculant, les yeux braqués sur Jésus, qui secouait la tête, en guise de revoir. C'est à la croix qu'ils devaient se revoir, lui cloué entre ciel et terre, elle mêlée aux deux autres Maries, la mère et la tante de Jésus. On dit qu'il y avait d'autres femmes aussi, qui le suivaient depuis la Galilée. En tout cas, à part le petit Jean, encore un grand enfant, il n'y aurait point d'hommes, pas de disciples, aucun de ceux qui, paraît-il, étaient prêts à mourir pour lui et avec lui. Quand Joseph d'Arimathie, muni des autorisations officielles, eut récupéré le corps de Jésus, elles seraient encore là, ces femmes, la Madeleine, au premier rang, pour bien voir l'endroit où on déposerait, pour le sabbat, le cadavre raidi de l'homme de sa vie. Le bruit avait couru que Jésus était à Béthanie. Les gens affluèrent, soudain, non pas pour voir Jésus seulement, mais aussi Lazare, qu'il avait ramené de la mort. C'est ainsi que les chefs des prêtres décidèrent de supprimer aussi Lazare. En effet, à cause de lui, beaucoup de Juifs les quittaient pour rejoindre les disciples de Jésus.
Thank you.
tout simplement un conte fantastique que nous laissons dans l'épisode précédent. Ah, un mort qui sort de son tombeau couvert encore de bandelettes. Et nous sommes à la fois pétrifiés, émerveillés et satisfaits du happy end de la vie de Lazare et surtout pour les deux sœurs. Ce fut décrit merveilleusement comme l'épisode précédent de l'aveugle né. Et maintenant nous tombons dans un autre épisode, c'est Jésus que l'on poursuit pour le mettre à mort. C'est la semaine dite sainte que nous appelons comme telle, nous sommes lundi ou mardi. Et qui trouve refuge où, ben, automatiquement, il y était encore il y a quelque temps, il va maintenant s'y abriter, c'est à 3 kilomètres de Jérusalem, il peut faire ça le soir, Jésus va chez ses amis, Marthe, Marie et Lazare. Alors, est-ce remerciement? Est-ce que Marie en question est la Marie-Madeleine? Doit-elle se faire pardonner je ne sais quel péché, vous voyez bien auquel je fais allusion? Nous ne savons pas. Ce que nous savons, c'est que cette personne-là, Marie, voulait témoigner à Jésus quelque chose, et quelque chose de symbolique. Parce que l'amour, s'il est dit « je t'aime », et il faut le dire quand on doit le dire, ne peut pas toujours être verbalisé. On ne peut pas toujours utiliser les mots. Alors on trouve des choses, on trouve une surprise, on trouve quelque chose que l'on prépare, Là, c'est une espèce de cadeau prémonitoire, anticipatif. Et Jésus le comprend tout à fait, les autres ne le comprennent pas. Voici qu'elle a pris, peut-être pour sa dot, qu'on lui a remise un parfum de nard, d'extrait de parfum. À partir de cette petite quantité, on peut fabriquer des milliers et des milliers de bouteilles ou de petits flacons. Donc c'est très très cher. Ça peut coûter jusqu'à 30 000, 40 000, 50 000 francs, disons, une bonne... 15